Chapitre 26. La mort du loup. Aléa fut réveillée par un baiser d'Erwan sur son front. Debout, mademoiselle Caspade, nous devons prendre la route et il y a des villageois qui demandent à vous voir. Aléa se frotta les yeux, s'étira et sourit au magistel. Après sa petite conversation de la veille avec Mjoln et Tagore, elle avait dormi d'un sommeil profond. L'esprit apaisé, peut-être. J'arrive, promit-elle. Le magistel acquiesça et la laissa se préparer. Quelques instants plus tard, elle se présenta devant une dizaine de villageois qui l'attendaient en effet à l'entrée du campement. Le soleil avait déjà commencé sa longue route et projetait de grandes ombres sur le parterre d'herbes jaunes. En contrebas, le village de Clulin prenait vie. Les gens sortaient de leurs maisons. Les boutiques ouvraient leurs volets et installaient leurs étalages. Les paysans s'éloignaient vers les champs, menant parfois les bœufs qui tiraient des charrues. Des équipes entières s'en allaient accomplir les travaux de la terre, pendant que d'autres partaient défricher les collines plus au sud, dans l'espoir d'agrandir encore le nombre d'arpents de la commune. Dans le campement aussi, l'agitation battait son plein. Touatan et soldats de la terre mélangés rangeaient leurs affaires, préparaient leurs sacs. Certains fabriquaient de nouvelles torches, d'autres aiguisaient les armes. Les villageois qui attendaient Aléa semblaient un peu perdus dans ce vacarme inhabituel.
« Madame !»
commença l'un d'eux en voyant qu'Aléa s'approchait.
« Nous sommes venus vous demander une faveur !»
Aléa acquiesça en souriant. Elle n'avait pas l'habitude qu'on l'appelle madame et trouvait cela plutôt amusant. « Je vous écoute. »«
Nous ne sommes pas nombreux, » reprit-il. « Mais nous voudrions rejoindre votre armée. »
Elle regarda les villageois. C'étaient essentiellement des hommes jeunes, à peine plus âgés qu'elle en vérité, mais que les travaux de la campagne avaient rendu déjà costauds. En y regardant de plus près, Aléa vit qu'il y avait même une jeune femme d'une vingtaine d'années parmi eux. Surprise, elle s'avança vers elle. C'était une belle fille, ses cheveux bruns coupés courts comme un garçon et qui se tenait droite, les mains croisées dans le dos. « Toi aussi, tu veux entrer dans mon armée ?»«
Bien sûr, » se vexa la jeune femme. « Pourquoi ? Elle est interdite aux femmes ?»
Aléa ne put s'empêcher de rire. Elle était prise à son propre piège.
« Non, non, simplement tu vas te sentir un peu seule parmi tous ces guerriers. »
« Et vous alors ?»
répliqua la villageoise. Aléa hocha la tête. La jeune femme avait l'air d'avoir largement assez de caractère pour supporter l'entourage masculin des soldats de la terre.
« Comment t'appelles-tu »«
Pensora. »«
Et tu sais te battre ?» demanda Aléa.
« Mieux que ces 10 imbéciles, »
répondit-elle en désignant les autres villageois.
« Les cheminants m'ont appris quand j'étais jeune à lancer les couteaux, et je n'ai jamais cessé de m'entraîner depuis lors. Je manie bien mieux les armes que les garçons. »
« Je vois. Mais lancer des couteaux sur une belle cible en bois, ce n'est pas la même chose qu'entre les yeux d'un être humain qui pourrait être ton frère, tu sais. »«
Madame, j'ai bien écouté ce que vous disiez hier. J'ai réfléchi toute la nuit. Ma décision est prise, je veux vous accompagner. »«
Pourquoi ?»
D'abord parce que ce qu'on dit sur vous me donne envie de participer à votre combat. Ensuite parce que j'ai beaucoup aimé votre réaction, hier, quand vous avez appris que des gens dans le sud chassaient les loups.
Cela suffit à te donner envie de te battre ? S'étonna Aléa.
Cela suffit à me donner envie de vous faire confiance. Et si vous estimez que la Gaëlia a besoin qu'on se batte pour elle, alors je vais être des vôtres.
Aléa lui tendit la main. Bienvenue, dit-elle simplement. Puis elle invita les nouveaux venus à rejoindre Erwan qui s'occuperait de les équiper et de leur indiquer leur place dans le grand convoi. Encore de nouveaux volontaires. Aléa avait appris à accepter, maintenant, que l'on veuille rejoindre son armée. C'était le sens de son combat, de son espoir. Quand tout le monde fut prêt, l'armée se mit en marche vers le nord-est. La route était encore longue jusqu'à Tarnéa, et Aléa nourrissait même le secret espoir de faire une pause en chemin à Saratea, le village de son enfance. Maître Géant donna l'ordre aux batteurs de se placer en ligne. Tous les paysans se mirent en formation, un bâton à la main, et attendirent que le louvetier donne l'ordre de commencer la battue. Les quatre valets et le maître chien passèrent devant la ligne des batteurs, le long de la lisière du grand bois. Les chiens commençaient à s'agiter. Sans doute flairait-il déjà quelque gibier. Quand Géant vit que tout le monde était en place, il détacha la corne qu'il portait en bandoulière et sonna le départ de la battue. Les chiens furent aussitôt lâchés. Ils se précipitèrent comme des flèches au milieu des arbres, le museau au ras du sol, cherchant les loups à forcer. Derrière eux, les batteurs se mirent en route et pénétrèrent dans la forêt. Il fallait empêcher les loups de passer à travers la traque des chiens. C'était une forêt mixte, où se mélangeaient plusieurs espèces d'arbres, hêtres, chênes, bouleaux, et même quelques ormes. Le sol était couvert d'un tapis de feuillage qui commençait déjà à se décomposer, et quelques mousses apparaissaient sur les souches ou les pierres qui dépassaient du niveau du sol. Les ramures des arbres étaient fort élevées pour la plupart, car dans la densité des bois, ils allaient chercher un peu de soleil en hauteur et s'étiraient vers le ciel, allongeant leurs immenses troncs alignés. Géant partit vite, abandonnant derrière lui la longue ligne des batteurs. Il voulait essayer de suivre les chiens, mais ils avaient déjà pris beaucoup d'avance. Il aurait normalement dû rester avec les manants pour surveiller la battue, mais il préférait avancer seul et voir le travail de la meute. À présent, c'était la seule chose qui l'intéressait. En réalité, il espérait qu'un jour le seigneur de Gorbon finirait par lui accorder une place de maître chien. Il se fichait de ces manants imbéciles, il n'avait qu'à se débrouiller seul. Quand il fut certain que les batteurs ne le voyaient plus, il se mit à courir. Ce n'était pas toujours chose facile, car certaines zones de la forêt étaient si denses qu'il était obligé de les contourner. Les chiens passaient à des endroits qui ne lui étaient pas toujours accessibles. Par moments, ils perdaient leurs traces. Puis soudain il voyait un mouvement derrière un arbuste, ou bien il entendait un aboiement, un gémissement, et il reprenait sa course. Difficile de dire si les chiens avaient trouvé leur proie. La chasse aux loups était sans doute la plus compliquée de toutes, car ces animaux étaient aussi malins qu'habiles. Les ruses des loups étaient nombreuses pour semer les chiens. Le change, qui consistait à traverser une région où vivaient d'autres animaux afin de brouiller les pistes. Le ballot, où les loups s'appliquaient à traverser un cours d'eau, ou même un étang. Les chiens perdaient la voie et gaspillaient un temps précieux pour repérer l'endroit où leur proie avait repris pied. Les loups étaient même si rusés qu'ils étaient capables de doubler leur voie. Ils revenaient sur leurs pas et prenaient une autre direction pour créer une deuxième piste et disperser les chiens. Et plus simplement, les loups étaient aussi capables de courir très vite, pas toujours sur des distances très longues, mais suffisamment toutefois pour se forlonger. Ils prenaient en un instant une avance si grande sur leurs poursuivants que ceux-ci perdaient leur odeur. Il fallait alors que les chiens se remettent à chercher une voie, le museau contre terre et le pas plus lent. Maître Géant comprit soudain que les chiens avaient enfin trouvé une piste. Ils s'étaient mis à aboyer de plus en plus fort, de plus en plus souvent, et il entendait même le bruit de leur course soudaine à travers la forêt. Il accéléra le pas pour essayer de voir quelque chose. Voir comment les chiens procédaient. Voir si vraiment ils avaient trouvé un loup ou s'ils poursuivaient par malheur un autre animal. Le louvetier en sueur enleva sa capuche de cuir, ce qu'il ne faisait jamais en public tant il avait honte de son visage mal formé, s'essuya le front et se mit à courir vers le nord. Soudain, alors que les aboiements des chiens se faisaient de plus en plus proches, Géant vit un mouvement brusque à travers les troncs d'arbres loin devant lui. Il se précipita en avant pour voir ce qui s'était passé et découvrit une scène étonnante. Un loup, pourchassé par trois chiens, venait de traverser cette zone de la forêt, et il voyait encore l'animal, changeant brusquement de direction pour semer ses poursuivants. Le louvetier courut aussi vite qu'il put pour ne rien perdre de la scène, mais il fut évidemment distancé en quelques instants. Bientôt, loup et chien avaient disparu au travers des arbres. Si seulement il avait eu un arc, il aurait peut-être pu tirer la bête, et alors, revenant le soir devant le seigneur avec un loup sur les épaules, la gloire lui aurait peut-être valu la promotion dont il rêvait tant. Mais pour l'heure, il n'était que batteur, et il devait se contenter d'un bâton. Après trois jours de marche, l'armée d'Aléa arriva à proximité du petit village que la jeune fille avait reconnu de loin, qu'elle connaissait si bien. C'est toi. Ses cheminées, une image si claire dans son souvenir. Saratea. Depuis le matin, Aléa n'avait pas prononcé une seule parole. Elle redécouvrait la lande et l'horizon vallonné avec émotion. Elle avait passé tant de temps sur ces terres. Elle s'était enfuie si souvent de ce village pour y revenir finalement, irrésistiblement attirée par ces petites ruelles sombres. Il lui semblait reconnaître chaque arbre, chaque pierre, comme les détails d'une peinture qu'elle regardait chaque soir en secret. L'herbe avait cédé la place au sable de la lande, et des nuages de poussière se soulevaient au passage des soldats. Au nord-ouest, la forêt de Sarlia prenait les couleurs dorées de l'automne. Aléa se laissa submerger par une nostalgie déchirante. À quelques pas d'ici, elle le savait, se trouvait l'endroit précis où elle avait découvert la bague du Samil Danak, au doigt d'Ilvin Ibouran. Là où tout avait commencé. Elle regarda autour d'elle. Personne ne pouvait comprendre ce qu'elle ressentait. Pas même Mjoln, qui pourtant l'avait rencontrée quelques jours plus tard. Le seul qui aurait pu partager cet instant étrange avec elle était Felim, l'homme qu'elle n'avait jamais eu le temps d'appeler « père ». Aléa poussa un long soupir. Puis elle essaya d'oublier le passé et de s'accrocher au présent. Ou plutôt au futur. Elle tourna la tête et vit Fingin sur sa droite. Le druide continuait à enseigner à Mjoln les triades bardiques. Le nain les connaissait maintenant presque toutes. Il ne lui restait plus qu'à les comprendre, ce qui n'était pas toujours la partie la plus aisée de l'apprentissage, comme aurait pu en témoigner le jeune druide. Aléa sourit. Elle voulait se contenter de cela, de ces petites choses simples. Elle était heureuse de voir vivre ainsi ses amis. Elle savait que c'était des moments précieux. Une armée de souvenirs, dans lesquels elle se replongerait certainement un jour avec bonheur. Soudain, Erwan donna l'ordre aux troupes de s'arrêter. Puis il s'approcha d'Aléa et lui demanda « As-tu pris une décision? Veux-tu qu'on s'arrête ici? Dans ton village ?»« Je ne sais pas trop », avoua la jeune fille d'un air désolé. « Ceux que j'aurais aimé y voir ne sont plus là. Et en même temps, j'ai tellement de souvenirs. Toutefois, cela nous ferait sans doute perdre du temps. » « Nous pouvons très bien nous permettre de passer la soirée ici, Aléa. Et tu pourrais y aller seule si tu le désires. »
Ils furent soudain interrompus par un jeune soldat de la terre.
« Général, » glissa timidement le jeune homme essoufflé. « Il y a un convoi qui arrive par le nord. »
Erwan se retourna, les sourcils froncés. « Des militaires ? » demanda-t-il.
« Je n'ai pas l'impression. Je crois plutôt que ce sont de simples paysans, mais ils sont nombreux. Il y a des chevaux, des charrettes. »«
Ce ne sont pas des cheminants ?» demanda Aléa.
« Non, je ne pense pas. »«
Envoyez tout de suite un éclaireur, » ordonna Erwan. Le jeune soldat acquiesça. Magistel fit signe aux troupes de se regrouper et de préparer leurs armes. Si ces nouveaux venus n'étaient pas des militaires, rien ne prouvait que ce n'était pas un piège. Erwan avait appris de son père à être méfiant en toutes circonstances. L'éclaireur fut rapidement de retour. Aléa et ses compagnons écoutèrent son explication.
Ce sont des habitants de Tarnéa et sa région, souffla-t-il péniblement après sa course. Ils disent qu'ils ont fui après une attaque des soldats de la flamme.
L'Arcourt ? S'exclama Aléa. Déjà ?
Elle poussa un cri de rage et se mit en route vers le convoi de Sarwa. Erwan fit signe à tout le monde de reprendre aussi la marche, et ils partirent à la rencontre des habitants en fuite. Aléa arriva bientôt auprès d'eux, et sans attendre ses compagnons, elle questionna les pauvres gens. Ils étaient une centaine, peut-être plus. Femmes, hommes, enfants, paysans ou commerçants, c'étaient des habitants de tout type, de tous âges, partageant dans leurs yeux la même peur. Leurs vêtements, leurs peaux, leurs affaires et leurs sacs amassés en vitesse sur les charrettes étaient couverts de sable. Ils avaient dû fuir à la hâte, avaient traversé une partie de la lande le plus vite possible, et à en juger par leur fatigue, ils n'avaient pas dû prendre le temps de se reposer.
« Que s'est-il passé ?» demanda Aléa en s'approchant d'une femme d'une trentaine d'années qui tirait derrière elle un âne chargé de sacs lourds et volumineux.
« Vous êtes Aléa ?»
demanda la Sarroise, les yeux écarquillés.
« Oui, que s'est-il passé ?» insista la jeune fille.
Un sourire un peu triste se dessina sur le visage de la femme et de plusieurs autres gens autour. Comme si rencontrer ici Aléa leur redonnait espoir.
une première lumière dans leur terrible fuite.
La nuit dernière, ils sont arrivés. On dit que le comte a refusé de les recevoir, qu'il a refusé de négocier. Alors ils ont attaqué.
Combien étaient-ils ?
3 ou 4 000, nous a-t-on dit, peut-être plus, et tous montés à cheval. C'est le général d'Ancret qui a mené le combat. Il paraît que c'est le plus terrible de tous les généraux d'Harcourt.
Et l'armée du comte n'a pas résisté ?
Ils n'ont pas eu le temps. Les soldats de la flamme sont redoutables, mademoiselle. Ils ont massacré aveuglément les habitants de Tarnéa, qu'ils soient militaires ou non. Nous autres avons fui à temps. Beaucoup ici sont blessés, d'autres brûlés. Ils ont incendié nos maisons. Je n'ai pas pu tout voir, je suis partie avant que cela soit fini. J'ai perdu mon mari. Je n'ai pas eu le courage de rester. Mais je pense qu'ils ont pris possession du château à l'heure qu'il est.
Les yeux brillants, elle parlait de plus en plus vite, et l'on entendait presque des sanglots dans sa voix.
Vous devez faire quelque chose. Nous voulons retrouver nos terres. Vous devez nous venger.
Aléa s'approcha et prit les mains de la femme au creux des siennes.
Calmez-vous, madame. Nous allons trouver une solution.
Elle se tourna vers Erwan qui venait d'arriver derrière elle.
Installons un campement près de Saratea. Soignons ces pauvres gens. J'irai ce soir dans mon village. Nous allons avoir besoin d'hommes et de chevaux.
Le loup sauta par-dessus un large tronc d'arbre mort qui lui barrait la route. Malgré la fatigue, il était encore capable de s'élancer haut et loin, poussé par l'aboiement des chiens de plus en plus proches. C'était un jeune loup gris, à la robe tachetée de noir, de fauve et de roux. Pour chasser par les chiens, il s'était éloigné de sa meute et s'était perdu dans cette partie de la forêt qu'il ne connaissait pas. Il était parvenu à semer ses poursuivants par deux fois, mais ses habiles chasseurs avaient retrouvé sa piste et semblaient se relayer pour soutenir un rythme que lui-même, malgré sa plus grande force, peinait à garder à présent. Les chiens étaient si proches qu'il arrivait maintenant à les sentir, et les rares fois où il avait tourné la tête, il avait même vu leur pelage noir ou brun à travers les arbres et les buissons. Il tenta de nouveau de changer sa trajectoire et de passer dans une zone plus dense de la forêt. Il espérait distancer les chiens, mais la course devenait de plus en plus rude. La langue pendante, il perdait de la vitesse, et chaque nouveau bond que lui imposaient les nombreux obstacles au sol était un peu plus pénible. Soudain, alors qu'il essayait de franchir un amas confus de feuilles, de branches et de pierres, il se prit la patte dans une tige noueuse et perdit l'équilibre. Le loup gris s'écroula sur le côté, roula plusieurs fois sur le sol avant de se relever. Par chance, il ne s'était pas cassé la patte, mais il avait perdu du temps et les chiens étaient presque sur lui. La queue basse, il se mit à courir de plus belle, de toutes ses forces. Les arbres défilaient sur ses flancs. Ses pattes semblaient à peine effleurer le parterre de feuillage. Les oreilles en arrière, le cou tendu, il fendait l'air comme un trait. Et pourtant, les aboiements des chiens étaient encore plus proches. Bientôt, il entendit leur souffle et leur grognement juste derrière lui. Un seul petit écart. Mais la course avait duré trop longtemps. Il avait passé la journée à fuir. Les chiens n'abandonnaient jamais. Ils étaient dressés pour ça, forcés, épuisés leur proie. Quand il comprit qu'il ne pourrait plus fuir, le loup fit soudain volte-face et montra les crocs en poussant un grognement féroce. La crinière hérissée, le dos rond, il se faisait aussi grand, aussi menaçant que possible. Les chiens s'immobilisèrent aussitôt, puis se disposèrent prudemment autour de lui. Chacun leur tour, ils aboyaient, faisant de petits bonds menaçants vers le loup gris qui se crispait, babine retroussée, et se préparait au combat. Mais les chiens n'attaquaient pas encore. À force d'aboiements et de menaces, ils augmentaient leur pression, poussant à bout la pauvre bête qui sentait sa fin proche. Soudain, le loup, qui avait retrouvé son souffle et peut-être un peu d'énergie, tenta de s'enfuir une nouvelle fois. Bondissant sur le côté aussi vite qu'il put, il s'engouffra dans la seule brèche que ses adversaires avaient laissée. Mais il eut à peine le temps de faire quelques pas, qu'un chien lui tomba dessus, sans même qu'il l'ait vu venir. La plupart des habitants de Saratea accueillirent Aléa comme une héroïne, l'acclamant aussitôt qu'elle entra dans le village, et certains vinrent même la serrer dans leurs bras. Elle reconnut de nombreuses personnes avec lesquelles elle aurait aimé régler quelques comptes, Mais l'heure n'était pas aux petites vengeances. Et après tout, il y avait aussi des habitants du village qui auraient pu lui rappeler ses nombreux larcins. Elle avait bien des choses à se reprocher, elle aussi. Erwan et Tagore essayaient tant bien que mal de tenir cette foule hystérique à distance, et Aléa se força à sourire pour exprimer au moins sa reconnaissance. Elle ne put toutefois répondre à toutes les questions qu'on lui posait. Quand enfin les villageois se calmèrent un peu, elle leur demanda.
« Où est le capitaine Fario ? Je voudrais lui parler. »
Il y eut un mouvement dans la foule. Les gens s'écartèrent. Aléa reconnut tout de suite le chef de la garde. Il portait toujours son armure de cuir, avec sur son plastron le blason du comté de Sarre, une hirondelle.
« Bonjour, capitaine, » lança-t-elle.
« C'est donc bien toi. On te reconnaît à peine, Aléa, »
répondit Fario en la dévisageant.
« J'ai besoin de vous parler tranquillement, » reprit-elle sans attendre.
Il acquiesça.
« Allons dans la caserne, » proposa-t-il.
Il demanda aux villageois de se pousser et se mit en route vers la grande porte de Saratea. Erwan et Tagore escortèrent Aléa derrière lui, et ils se retrouvèrent tous les quatre à l'intérieur de la caserne, dans le silence retrouvé, à l'abri des regards incrédules des villageois. Fario les invita à s'asseoir à la grande table au centre de la pièce principale. Il n'y avait que trois gardes permanents à Saratea. Avec lui, cela ne faisait guère que quatre occupants pour la caserne, mais elle avait été prévue pour recevoir bien plus de soldats, et la place ne manquait pas.
« La dernière fois qu'on t'a vu ici, » commença Fario en s'asseyant à son tour, « tu t'enfuyais comme une voleuse. À vrai dire, tu étais une voleuse. »
Aléa sourit.
« Ce n'est pas tout à fait juste, » corrigea-t-elle. « La dernière fois qu'on m'a vu ici, je travaillais dans l'auberge de Tara et Kerry. »
« C'est vrai, tu t'étais un peu rachetée sur la fin. » Quoi qu'il en soit, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour tu reviendrais et que les villageois t'acclameraient comme si tu étais la reine de Galassie.
Et pourtant, la reine de Galassie aussi vient de ce village, répliqua la jeune fille.
Fario ne put s'empêcher de sourire à son tour.
Oui, c'est vrai. Comme quoi Saratea est un village très formateur, n'est-ce pas?
Fario, j'aimerais pouvoir passer du temps avec vous pour vous raconter tout ça. J'aimerais pouvoir prendre le temps de souffler, maintenant que je suis revenue. Mais malheureusement, ce n'est pas pour cette raison que je suis ici. Je vous dois beaucoup, Fario. Le jour où j'ai trouvé la bague et où je me suis disputée avec Almar en me conseillant d'aller chez Tara et Kerry, vous avez changé ma vie. Vous m'avez parlé comme à une adulte, ce jour-là. Vous avez essayé de me faire confiance, et je l'ignorais à l'époque. Mais cela a changé beaucoup de choses pour moi. Je vous remercie.
Ça va, Aléa. Je n'ai fait que mon travail.
Quoi qu'il en soit, si je suis ici ce soir, c'est pour vous demander votre aide. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé à Tarnéa ?
Non, avoua le capitaine en fronçant les sourcils.
L'Arcour a envahi notre capitale, Fario. Le chef de la garde écarquilla les yeux.
Quand ?
La pressa-t-il, incrédule.
Hier, les soldats de la Flamme ont attaqué le château d'Albasruad.
Par la Moira ! Souffla-t-il.
J'étais justement sur le point de rallier Tarnéa. Je suis accompagnée de mon armée. Mais elle ne compte aujourd'hui que 500 hommes, alors que les soldats de la Flamme seraient au moins 3000.
3000 seulement ?
Ils n'ont envoyé que 3000 hommes pour prendre notre capitale ?
Oui, cela en dit long sur l'estime qu'ils ont pour l'armée de Sarre. Et il faut croire qu'ils ont eu raison, hélas. Le capitaine poussa un long soupir. Il n'arrivait pas à y croire, et il semblait abattu. Après tout, il appartenait lui aussi à l'armée de Sarre.
Fario, reprit Aléa, je vous présente Tagore. Il est le chef des derniers Tuatan, et il est mon frère.
Ton frère ?
Mon demi-frère, en tout cas. Nous avons la même mère.
Tu connais ta mère ? S'étonna le capitaine.
Je vous expliquerai tout cela un jour, Fario. Pour le moment, ce n'est pas ce qui compte. Voici Erwan Aldaman.
Vous êtes le fils de Galiad Aldaman ?
Oui,
répondit le magistel.
Alors toutes les rumeurs qu'on entend sur toi ne sont pas fausses, Aléa ? C'est à peine croyable. J'avais entendu dire que les Tuatan s'étaient ralliés à toi, et que tu voyageais avec tout un tas de personnages étonnants, dont le fils d'Aldaman. On dit aussi que l'un des grands druides du conseil de Saïmina est à tes côtés. C'est vrai ?
Oui, Fingin, vous le verrez tout à l'heure. Fario, si je suis venue vous voir, c'est parce que j'ai besoin que vous m'aidiez à recruter d'autres hommes pour que nous puissions aller libérer Tarnea. Avec 500 soldats, même si certains sont de valeureux guerriers Tuatan, je n'ai aucune chance.
Recruter des hommes? Il n'y a pas beaucoup de soldats par ici. À Saratea, nous sommes 4. Et la situation est la même dans les villages voisins, tu le sais bien.
Il y a environ 5 villages autour. Cela représente déjà une vingtaine de soldats professionnels. C'est mieux que rien. Et je suis sûre qu'il y a aussi de nombreux hommes prêts à se battre.
Tu n'en feras pas des soldats du jour au lendemain.
Dans l'urgence, pour sauver notre comté, tout le monde doit être prêt à prendre les armes. Les gens ici sont braves, quoi qu'en disent les mauvaises langues. Et avec l'aide des soldats de la terre, ils apprendront vite l'essentiel. La plupart des combattants qui me suivent sont de simples paysans qui ont voulu entrer dans mon armée de leur propre volonté.
Je vois. Je ne suis pas sûre que cela soit très efficace, mais puisque c'est sans doute notre seule chance, je veux bien t'aider à recruter les Sarois de la région, et je ne devrais avoir aucun mal à convaincre les soldats des autres villages, si ton but est vraiment de libérer notre propre capitale.
Je savais que je pouvais compter sur vous, capitaine.
Fario poussa un soupir.
J'aurais préféré te revoir en d'autres circonstances, mais je suis heureux tout de même, et fier de ce que tu fais. Les gens ici parlent de toi tous les jours. Ils disent que tu vas changer leur vie. Que tu vas changer toutes nos vies.
Évitez de trop me parler de ces choses-là. Ça ne me met pas vraiment à l'aise. Confia Aléa en souriant.
Erwan lui adressa un clin d'œil.
Attendez, intervint soudain Fario alors qu'il s'apprêtait à se lever.
Aléa, dans combien de temps comptes-tu attaquer Tarnea?
Je ne compte pas attaquer Tarnea, Fario. Je compte la libérer.
Oui, bien sûr, j'espère bien. Dans combien de temps?
Le plus vite possible, demain, après-demain.
Si tu étais prête à attendre davantage, il y a à Sarban une garnison de 400 soldats de Sar.
Aléa fronça les sourcils. 400 soldats? Répéta-t-elle. Ce n'est pas négligeable, mais le temps nous est compté. On pourrait peut-être envoyer un messager et leur dire de nous rejoindre au plus vite à Tarnea.
Si ce sont des soldats de Sar, intervint Erwan. Il y a de grandes chances que le comte Albas Ruad, quand il s'est vu attaquer, ait envoyé des messagers pour les prévenir. Auquel cas, ils sont peut-être déjà en marche.
Nous verrons, conclut Aléa.
Capitaine, reprit Erwan. Toute l'armée de Sar n'était quand même pas enfermée à Tarnea. S'il y a une garnison à Sarban, il y en a sûrement d'autres ailleurs, non?
Pas à l'ouest du comté. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a jamais eu beaucoup d'hommes de ce côté de l'île. Il faut dire que nous n'avons jamais eu à combattre la moindre invasion par ici. La plupart des soldats de Sar sont au centre et à l'est.
Dommage. Espérons seulement qu'ils auront été prévenus eux aussi, et qu'ils rejoindront la capitale.
Il ne faudrait pas non plus que toutes les campagnes se vident de leurs soldats, répliqua le capitaine. Rien ne nous dit que l'Harcourt ne va pas envoyer une seconde vague pour prendre aussi le contrôle des petits villages.
Il faudra se méfier en effet. Mais je pense que s'ils n'ont envoyé que 3000 hommes, c'est parce qu'ils veulent conserver l'essentiel de leur armée pour un autre ennemi beaucoup plus menaçant. La Galassie.
C'était donc la première fois que Germain de Gorbon participait à une vénerie. Contrairement à la plupart des seigneurs de Gaelia, il n'avait jamais été très intéressé par la chasse, ni même par la guerre, ou les grands tournois de chevalerie qu'on organisait plus au nord. Seul le pouvoir le motivait vraiment. Aussi estimait-il que la vénerie était une perte de temps. Mais cette chasse revêtait une toute autre importance. Si le chevalier Ultan était venu jusque-là, c'était sans doute que de loin le maître gardait un œil sur ses activités. Et s'il y avait une seule personne que Gorbon ne voulait pas décevoir, c'était Maol Morda. Le parcours de ce petit seigneur de Galassie était peu ordinaire et même des plus mystérieux, car Germain n'était pas né de famille noble. Et si personne ici n'avait jamais connu les ancêtres du seigneur de Gorbon, c'était tout simplement parce qu'ils se gardaient bien de révéler leur identité. Il était arrivé un matin dans cette région pauvre du sud de la Galassie, et nul ne savait d'où il était venu. La tête pleine d'ambition, il était parvenu par la ruse à se faire passer pour noble dans les petits bourgs où ne vivaient alors que quelques fermiers tranquilles. En prodiguant de bons conseils et en réglant ici et là les conflits démanants, il avait fini par gagner leur confiance. Mais pour parvenir à ses fins, et faire construire le château qui lui offrait un véritable statut, il n'avait pu se contenter de sa ruse et de sa bonne réputation. C'est alors qu'il s'était tourné vers un allié facile, le seul sur l'île qui pût vraiment l'aider en échange d'une allégeance éternelle. Maol Morda, le porteur de la flamme des ténèbres. Il avait suffi d'un pacte pour que celui-ci donne à Gorbon les moyens de sa réussite. En quelque temps, Germain put construire son domaine, y attirer de nouveaux paysans, et même après quelques années, inviter plusieurs jeunes seigneurs à qui il confiait certaines parties de ses terres. Tout cela en échange d'un seul serment, servir toujours le maître. Depuis l'ouverture des louveteries, Gorbon avait enfin l'occasion de tenir parole. Et même si la violence d'Ultan l'avait terrorisé, il continuait d'espérer que le maître apprécierait le zèle qui le poussait à participer lui-même à cette grande vénerie. Il avait choisi de suivre l'équipe de tireurs dirigée par maître Sori, le grand veneur. Du haut de son cheval, il les suivait avec peine, peu habitué à monter ainsi dans les bois. Il fallait se baisser pour éviter les branches, se pencher en arrière quand les chevaux descendaient dans des petits fossés, et s'accrocher fermement quand ils passaient au galop pour en ressortir. Ils employèrent ainsi toute la matinée et le début d'après-midi à parcourir les bois à la recherche des loups que la battue devait mener vers eux. Mais aucun animal ne se montra, et le seigneur commença à trouver le temps long. Son dos lui faisait mal, et la dureté de sa selle ne lui assurait pas le plus grand confort. Soudain, ils entendirent au loin les aboiements des chiens.
« On approche !» s'exclama Sori en attrapant son arc dans son dos.
« Seigneur, voulez-vous passer devant ?»«
Non, non, » répondit Gorbon sans hésiter. « Non, je préfère vous suivre. Je n'ai pas grande habitude de la chasse, vous savez bien. »
Le grand veneur acquiesça en souriant. Il n'avait demandé que par courtoisie.
« Allons-y »
ordonna-t-il en donnant de grands coups de talon à son cheval pour le faire partir au galop. Et la chasse commença vraiment. Les chevaux avaient l'habitude et fonçaient d'eux-mêmes vers l'endroit d'où venaient les aboiements des chiens. Le seigneur de Gorbon manqua plusieurs fois de tomber de sa monture. Il n'avait même pas pris le risque de se saisir de son arc, persuadé qu'il serait incapable de tirer juste, et bien heureux de pouvoir profiter pleinement de ses deux mains pour s'agripper à la crinière de son cheval. Les yeux mi-clos, la mâchoire serrée à s'en faire mal, il n'espérait qu'une chose. Que cette course démoniaque prenne fin. À cet instant, le grand veneur cria qu'il voyait le loup. Les chevaux purent alors prendre le relais des chiens et pourchasser l'animal déjà fort épuisé. Le loup changea de direction et s'engouffra vers l'ouest à travers les arbustes. On voyait bien à son rythme qu'il courait depuis longtemps, et si les chiens ne l'avaient pas encore rattrapé, c'était sûrement qu'eux aussi fatigués. Mais les chevaux, eux, étaient en pleine forme. Et la vue du loup semblait les exciter. Au matin du deuxième jour, il fut décidé qu'on lèverait le camp et qu'on partirait enfin pour Tarnéa. Erwan, Tagor et Fario, qui avaient recruté près de 100 sarrois et une cinquantaine de soldats de la région, ce qui portait l'armée d'Aléa à 650 hommes environ, auraient sans doute aimé avoir plus de temps pour préparer les troupes, comme les armes, et former un peu mieux ceux qui n'avaient jamais connu la guerre. Mais Aléa insista pour qu'on ne perde plus un instant. Un messager était revenu pendant la nuit pour annoncer que la garnison de Sarban dont avait parlé Fario était effectivement déjà en route et qu'il serait possible de les retrouver à mi-chemin. Il n'était après tout que 400 soldats, et donc bien heureux, semblait-il, de pouvoir trouver en route de nouveaux alliés avant de rejoindre la capitale. Au milieu de la matinée, donc, l'armée de la Terre, comme on la désignait alors, se mit en route vers la grande ville du comté de Sar. Les habitants de Saratea l'acclamèrent en la regardant partir, mais dans leurs yeux se lisait une évidente inquiétude. Jamais l'avenir du comté n'avait été si incertain. Les gens de la région avaient fourni à l'armée quelques chevaux, mais l'essentiel des soldats devait encore marcher à pied et l'on n'avançait pas aussi vite qu'Aléa l'aurait voulu. Les troupes progressèrent ainsi jusqu'en fin d'après-midi, sans même s'arrêter pour déjeuner. Aléa demanda qu'on se contente de ramasser quelques baies en marchant et expliqua qu'on attendrait le soir pour manger. Pendant que les trois guerriers, Erwan, Tagor et Fario, encadraient de leur mieux les différentes formations du convoi, Aléa chevauchait en tête, entourée de Kaitlyn, Mjoln et Fingin. Il n'avait pas prononcé une seule parole de la journée. Mais le nain avait joué plusieurs fois de la cornemuse sur un mode joyeux, espérant tenir ainsi le rôle du barde qui encourage les guerriers avant la bataille. Il n'était pourtant pas pressé, lui-même, que cette guerre arriva. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, Erwan vint au galop à côté d'Aléa. « Nos éclaireurs ont aperçu la garnison de Sarban un peu plus loin, vers le nord. »«
Parfait. Envoie-leur un messager pour leur dire de nous retrouver au plus vite sur cette colline. » dit Aléa en pointant son doigt vers l'est.
« Je pense que c'est à 1 heure de marche d'ici. C'est là que nous monterons notre camp.
Et de bonne heure, car nous devrons nous réveiller au milieu de la nuit.
« Tu veux attaquer avant le lever du soleil ?»
demanda Erwan. Aléa acquiesça.
« Est-ce bien utile ?» s'inquiéta le magistel. « Je pense qu'ils savent déjà que nous sommes là. Ils ont sûrement laissé de nombreux guetteurs tout autour de la capitale, et je ne crois pas que nous pourrons tirer parti d'un quelconque effet de surprise. »
Il ne s'agira pas de les surprendre, Erwan, mais de profiter de l'obscurité.
Le jeune homme approuva. Il n'avait certainement pas envie de la contredire devant les soldats et faisait de toute façon confiance à l'instinct d'Aléa. Lors, il retourna vers les combattants pour envoyer un messager à la garnison de Sarban. Un peu plus d'une heure plus tard, l'armée de la Terre arriva en effet sur la colline qu'avait choisie Aléa. On installa le camp sur le flanc ouest pour ne pas être trop directement exposé aux guetteurs de la capitale. Dankrai enverrait sans doute des espions, c'était inévitable, mais il ne servait à rien de leur faciliter la tâche. Quand la garnison de Sarban arriva à son tour au point de rendez-vous, Aléa demanda à Fario de les accueillir en premier, afin de les mettre en confiance. Puis elle vint à leur rencontre. Elle resta sur son cheval et salua les nouveaux venus. Il y avait en effet 400 hommes, portant les couleurs du comté de Sar, et bien mieux équipés pour la guerre que la plupart de ceux qui avaient déjà rejoint l'armée d'Aléa. Ils s'étaient assemblés en arc de cercle et attendaient avec une évidente impatience le discours de la jeune fille.
« Vous avez sans doute entendu parler de moi !»
dit-elle haut et fort dans l'espoir que tous puissent l'entendre.
La moitié de tout ce qu'on vous a dit à mon sujet est probablement faux. L'autre moitié est peut-être vrai, mais ce que vous devez savoir de moi aujourd'hui se résume en une chose. Je veux libérer Tarnea.
Un homme sortit du rang des soldats. Il portait un casque de capitaine. Aléa en déduisit qu'il devait être le chef de la garnison de Sarban.
Alors pour le moment, dit l'homme en s'avançant vers elle. Nous voulons la même chose que vous. Mais après?
Que voulez-vous dire?
Avez-vous l'intention de prendre le pouvoir? Car si c'est le cas, nous devons le savoir. Nous devons savoir si nous vous aidons simplement à libérer Tarnea ou si vous nous demandez en réalité de vous aider à prendre le pouvoir dans notre comté.
La paix, monsieur le capitaine, m'intéresse beaucoup plus que le pouvoir. Le pouvoir, j'en ai aujourd'hui beaucoup plus que je ne le voudrais. Et si je pouvais m'en débarrasser?
Cela vous paraîtra sans doute incroyable.
J'en serais fort heureuse.
Attendez, intervint le capitaine de Sarban en fronçant les sourcils. Vous avez du mal me comprendre.
Nous ne nous inquiétons pas à l'idée que vous preniez le pouvoir. Nous l'espérons.
Comment ça? S'étonna Aléa.
La route depuis la côte nous a permis de réfléchir et de débattre, madame, et nous en sommes tous arrivés à la même conclusion. La seule chance pour Lassar de s'en sortir, c'est que vous en preniez la tête. C'est pour vous mener à la place du comte que nous voulons nous battre, pas pour remettre en place celui qui nous a déjà amenés à notre perte.
Aléa ne put s'empêcher de sourire.
Moi qui avais peur que vous refusiez de vous allier à nous, avoua-t-elle. Écoutez, je vais être franche avec vous. Non, je n'ai pas l'intention de prendre le pouvoir. Ce n'est pas mon ambition, et j'espère que quelqu'un le fera à ma place. En revanche, je veux défendre Lassar et mettrai mon armée au service du comté. Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Pour le moment, j'ai besoin de votre aide, et si vous le voulez bien, je serai heureuse de vous accueillir dans les rangs de l'armée de la Terre.
Ce sera un honneur, assura le capitaine.
Et Aléa vit dans le visage des hommes derrière lui que la garnison tout entière partageait en effet son sentiment. Le loup parvint à courir encore pendant un temps qui parut une éternité au seigneur de Gorbon. Mais les chevaux ne lâchaient pas prise, et le moment vint où l'animal ne put continuer, tant les forces lui manquaient. Les pattes tremblantes, la langue pendante et la bave aux lèvres, il était épuisé, à bout, résigné sans doute à mourir. Dans un dernier sursaut de bravoure, il se tourna face à ses poursuivants et se mit à grogner sans grande conviction. Maître Sori arrêta aussitôt son cheval. Les autres veneurs l'imitèrent, ainsi que le châtelain, fort heureux que le galop s'arrête enfin. Les chevaux, eux, étaient encore excités et semblaient vouloir avancer vers le loup. Le grand veneur attrapa une flèche dans son carquois. Il la passa dans son arc et banda la corde. Le loup, devinant le danger, fit quelques pas en arrière. Mais il était trop tard. Le projectile fendit l'air en un seul instant. Le loup sursauta et parvint de justesse à l'éviter, à la grande surprise de Maître Sori. L'animal fit demi-tour, terrifié, et recommença à courir. Mais avant qu'il ait pu prendre la moindre distance, une autre flèche s'envola et se planta dans le flanc de l'animal. Le loup s'écroula sur le sol alors que le sang commençait à se répandre sur sa robe grise.
« Bravo !»
s'exclama Sori en saluant le veneur qui avait tiré après lui, puis il descendit de cheval. Attrapant la corne à sa ceinture, il sonna l'alali sur pied. Les autres veneurs descendirent de cheval à leur tour. Germain de Gorbon, quelque peu dérouté, les rejoignit devant l'animal blessé. Le loup respirait encore. Son flanc se soulevait péniblement et l'on voyait battre ses paupières. Le seigneur de Gorbon fit une grimace en voyant le sang poisseux qui s'écoulait sur le feuillage. Maître Sori s'approcha alors du châtelain et lui tendit un bâton.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'inquiéta Gorbon sans oser attraper l'objet qu'on lui donnait.
« Seigneur, » expliqua le grand veneur, « le loup vit encore, vous devez l'achever. C'est à vous que revient l'honneur. »«
L'achever ?» s'exclama Gorbon. « Avec ça ? Pourquoi ne lui tranchez-vous pas la gorge simplement ?»«
Il risquerait de mordre. » »«
Vous pourriez lui envoyer une autre flèche, » répliqua Germain.
« Ce n'est pas la coutume, monseigneur. »
Le châtelain resta immobile et silencieux. Il regardait Sori droit dans les yeux, et il était sûr de comprendre ce que ce regard disait. « Vous êtes le seigneur du domaine. C'est vous qui avez ordonné cette vénerie. Vous devez l'assumer. Vos sujets ne vous respecteront plus si vous n'avez pas le courage d'achever vous-même cette bête. » Et c'était la pure vérité, aussi répugnante qu'elle lui parut. Lentement, il attrapa le long bâton. Il avala sa salive et s'approcha de l'animal. Tous les veneurs lui souriaient. On aurait dit qu'il l'enviait. Et pourtant, rien ne pouvait l'écœurer davantage. De sa vie, Gorbon n'avait jamais tué. Pas même le plus petit animal. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le choix. Tous les yeux étaient tournés vers lui. S'il faiblissait, s'il échouait, il se couvrirait de ridicule et perdrait probablement tout son crédit. Il voyait bien dans les yeux du grand veneur que la situation amusait celui-ci, et cela le rendait encore plus furieux. Mais il n'avait pas le choix. Lentement, les mains tremblantes, il souleva le bâton au-dessus du loup qui gisait devant lui. Il inspira profondément. Il savait exactement quel geste il devait faire. Un geste d'une simplicité enfantine. Et pourtant, une force invisible retenait son bras. Il anticipait le bruit du choc, le cri de la bête. Peut-être le craquement du crâne ou la gerbe de sang. Et l'idée le paralysait. L'instant s'éternisait. Il devinait les regards des veneurs, le mépris qui naîtrait dans leurs yeux s'ils ne parvenaient pas à abattre le bâton. Ce qui lui faisait le plus peur, c'était de n'avoir point le courage de taper assez fort. Pour être sûr de tuer la bête sur le coup, il fallait de toute évidence cogner aussi fort que possible. Et il n'y aurait rien de pire que de devoir taper une seconde fois. Et pourtant, il savait déjà qu'il n'oserait pas y mettre toute sa force. Le dégoût du geste le freinerait au moment même où il trouverait le tout petit instant de courage nécessaire. Les pattes du loup firent de petits mouvements nerveux. Le seigneur sursauta. Il voyait les yeux de l'animal. C'est là qu'il devait frapper, juste derrière les yeux, sur le haut du crâne. Mais ses yeux étaient si tristes et si vivants. Comment pourrait-il trouver le courage ?
« Allez-y, monseigneur !»
le pressa un veneur sur sa gauche. Gorbon souffla. Il baissa lentement le bâton au-dessus du crâne du loup pour ajuster la trajectoire, puis il le releva de nouveau. Frappé. Juste frappé. Un geste si simple. Il ferma les yeux, puis les poings fermés, la mâchoire serrée. Il abattit enfin la grande canne. Le choc fut sec et brutal. La canne vibra sous ses doigts. Des gouttes de sang giclèrent jusqu'à son visage. Mais le coup n'avait pas été assez fort. Germain avait ouvert un œil au moment de l'impact et il vit l'animal sursauter. Ses pattes se mirent à trembler de plus belle. Le crâne était légèrement enfoncé, mais il vivait encore. Il gémissait même. Gorbon fit une grimace de dégoût. Les pleurs du loup étaient insupportables, mais il ne pouvait hésiter, il ne devait pas. Il fallait frapper encore. Il souleva le bâton une nouvelle fois. Ses doigts tremblaient. Son ventre se nouait. Il lança un regard plein de haine au grand veneur, puis inspirant un grand coup, il frappa l'animal de nouveau, les yeux grands ouverts cette fois. Puis une troisième fois. Le loup bougeait encore, une quatrième, une cinquième. Il frappait de toutes ses forces, de toutes les forces que lui donnaient son dégoût et sa haine. Puis quand il vit que le loup était mort, il jeta son bâton par terre et fit plusieurs pas en arrière. Il avait envie de vomir. Des bouts de cervelle apparaissaient sous le sang, derrière le crâne défoncé de la bête. Le châtelain ferma les yeux un instant pour chasser les larmes qui s'obstinaient à monter.
« Bravo, seigneur !» s'exclama le grand veneur en s'agenouillant derrière le cadavre du loup.
Sori sortit de son sac un grand couteau de chasse et commença à dépecer la bête. On voyait qu'il avait une grande habitude de la chose. Il rassembla les bas morceaux sur la peau étendue de l'animal, pour que les chiens viennent se nourrir, puis il découpa le pied avant et le postérieur droit. La lame allait et venait contre les os du loup, découpant avec peine les pattes épaisses. Quand il eut fini, il prit les deux pattes et s'approcha du seigneur de Gorbon.
« Tenez, monseigneur, l'honneur vous revient !»
Mais le châtelain s'écarta des deux trophées ensanglantés.
« Non merci, » répondit-il. « J'en ai assez vu pour aujourd'hui. »